Bonjour à toutes et à tous. Dans le précédent TD, nous avons vu que convaincre le patient de nos choix thérapeutiques n'était peut-être pas une finalité. L'objectif serait alors de créer une entente mutuelle, un canal de communication. Et c'est en ça que le bilan lors de la première séance représente un instant particulier dans la prise en soin entre un thérapeute et un patient. Tout d'abord, c'est la rencontre entre un praticien qui a son expérience, ses propres pratiques, mais aussi sa vie personnelle, avec une personne qui vient le voir, soit parce qu'on l'a conseillé, soit parce que vous êtes l'expert de la course à pied de votre région, soit parce qu'on lui a dit qu'il avait besoin de consulter un kiné. Ces deux acteurs qui se rencontrent vont créer une troisième entité unique durant cette première entrevue. C'est l'émergence du partenariat. L'intérêt de ce podcast est de comprendre comment on peut adapter notre communication à un bilan classique. Usuellement, la séance démarre par un échange verbal. Pour autant, nous ne pratiquons pas tous ce moment de la même manière. Prenons un exemple. Une personne âgée vous consulte pour les douleurs de genoux qu'elle a depuis quelque temps. Elle se présente et commence à vous parler de son chien qui vient de mourir et elle n'a même pas le temps de donner plus de détails qu'on l'interrompt parce que la séance tourne et qu'il faut bien avancer. La mort du chien, ça n'est pas le sujet. Une étude a d'ailleurs montré que les patients se faisaient couper la parole en moyenne au bout de 23 secondes lors de leur première prise de parole. C'est une occasion manquée pour laisser le patient se confier et par la même occasion nous donner des informations primordiales. Effectivement, cette personne âgée était à un doigt de nous expliquer que depuis que son chien était mort, elle était très triste, ne sortait plus de son jardin, n'allait plus marcher et ne sortait plus de chez elle que pour ses courses, alors qu'avant son activité physique était décuplée. C'est ce que montre une autre étude mettant en lumière la courte durée de la première prise de parole si on laissait les patients aller au bout de leurs propos. 1 minute 30, ce n'est rien. Au-delà des données brutes qui seront récoltées, on obtient surtout l'importance qu'ils accordent à leurs problèmes, le désinvestissement social que cela peut leur procurer. On peut même recueillir leurs croyances et la représentation qu'ils ont de la rééducation, et ainsi leurs attentes. Écoutons nos patients. Intéressons-nous à leur parcours de soins, leur propre avis de leur pathologie ou de leur douleur. Comment voient-ils la rééducation? Le deuxième point important de cette première entrevue est d'approfondir les données qu'ils viennent de vous fournir. Prenons un exemple. Après vous avoir donné sa représentation de ce qui lui arrivait, un patient qui vient pour des douleurs de genoux vous demande si vous avez un appareil d'électro pour renforcer son quadriceps. Si on rentre directement dans le sujet et qu'on lui explique qu'après notre examen, l'électro ne semble pas indiqué, on peut facilement rentrer dans un conflit et sortir du lien partenarial qu'on venait de débaucher. Effectivement, peut-être que c'est le médecin qui lui a dit qu'il fallait renforcer son genou pour diminuer ses douleurs, et qu'à la télé, il a vu une pub là-dessus, ou bien c'est sa voisine qui l'utilise et pour qui ça marche l'enfer. Soyons curieux. Demandons-lui pourquoi, d'après lui, l'électro serait le meilleur allié pour sa rééducation. Rechercher le raisonnement qui a abouti à la construction d'un avis ou de ses connaissances s'appelle la démarche épistémiologique. Enfin, notre rôle principal est d'éduquer le patient à ses douleurs ou à sa pathologie afin d'améliorer leur qualité de vie, et pour ça, rien de mieux que de favoriser les autotests quand c'est possible. Mais surtout de laisser les patients décider de leur traitement. Reprenons l'exemple du patient de tout à l'heure. Après avoir investigué les raisons d'avoir de l'électro pour son traitement, il maintient cette envie alors que vous-même savez que ça vient de sa sédentarité. La meilleure évidence est alors de laisser la personne décider de son traitement en lui expliquant tout de même ce que vous en pensez. Construisez un contrat thérapeutique ensemble. Proposez-lui de faire un point au bout de 3 semaines sur ses douleurs. Si ça marche, tant mieux pour lui, et analyser ce qui a fonctionné dans son environnement pour comprendre la réussite. Si ça ne fonctionne pas, il vous le demandera pourquoi ça marchait chez la voisine. C'est alors que vous pouvez lui demander comment la voisine rythme ses journées. Il vous répond qu'elle va marcher tous les jours depuis qu'elle a la machine, qu'elle jardine et qu'elle suit même des cours de fitness en ligne. Charge alors à vous de lui faire comprendre que la différence de résultat réside peut-être dans les exercices qu'elle fait elle. Le but est donc de rester centré sur le patient tout du long du bilan, de l'anamnèse à la planification des séances. Cela passe par de l'écoute et la validation des douleurs exprimées, l'approfondissement des données recueillies, par exemple avec la démarche épistémologique, et enfin la coplanification des séances en laissant émerger les solutions par le patient. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour un nouveau podcast.